Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, dès 15h, il est à mes côtés pour prendre soin de vous, pour vous informer. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, nous allons parler de notre peau. Comment la garder saine et belle à tous les âges de la vie? Une émission en partenariat avec le magazine Tempo Santé. Alors comment notre vie et même notre niveau de stress influence la santé de notre peau? Comment en finir avec l'acné? Et on ne s'intéressera pas qu'aux ados, vous allez voir. On parlera également de psoriasis et d'eczéma, deux pathologies cutanées qui enquiquinent la vie de nombreux Français. Pour répondre à toutes vos questions, deux invités en studio, Sylvia Pinoza, rédactrice en chef du magazine Tempo Santé, ainsi que le professeur Laurent Misery, chef du service de dermatologie du CHU de Brest. Ensuite, le vendredi, vous l'attendez, il y aura bien sûr la chronique beauté de Benjamin Lévesque. Il a décidé de rester dans le thème du jour, la peau, mais lui, il va répondre à une préoccupation courante en hiver. Comment garder bonne mine? Enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous dira si chez les hommes aussi, on peut parler d'un point G.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer cette émission par cette question de Julia qui vit à Rouen.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'ai un petit problème, mon cousin a une entorse du genou depuis une semaine. Il est immobilisé. Vous pensez que la kiné est obligatoire? Et d'ailleurs, de façon générale, comment on fait pour récupérer d'une entorse? Merci beaucoup.
Alors Jimmy, d'abord un petit rappel, une entorse, alors là c'est du genou, ça veut dire qu'il s'est passé quoi dans le genou?
Alors ça survient souvent à l'occasion d'accidents de sport et c'est la déchirure ou la distension d'un ligament. Au niveau du genou, vous avez quatre types de ligaments, deux sur le côté, les ligaments externes et internes, et deux au niveau du centre, le ligament croisé antérieur et postérieur. Et lorsque vous avez cette déchirure ou cette distension liée à cette entorse, vous avez une douleur, de l'hématome et un enraidissement, raison pour laquelle on va vous traiter souvent, comme elle le dit, vous immobiliser.
Alors justement, le traitement de l'entorse, c'est ça, hein, ça passe forcément au départ, au moins par l'immobilisation.
Exactement, c'est la seule façon de permettre au ligament de cicatriser. On a souvent recours à des traitements antalgiques ou anti-inflammatoires, mais la seule façon de laisser ce ligament un peu tranquille, c'est de le mettre au repos, et notamment en mettant souvent une attelle de genou qui va vous empêcher de marcher.
Pendant combien de temps cette attelle?
Ouais. Si vous avez une entorse bénigne. Une entorse bénigne, c'est lorsque vous avez une distension partielle du ligament. Vous allez être immobilisé seulement quelques jours et parfois simplement avoir qu'une petite genouillère. En revanche, lorsque vous avez une entorse grave, c'est-à-dire une déchirure complète du ligament, là, on va vous immobiliser 2-3 semaines et parfois même avoir recours à une intervention chirurgicale. Donc, ça dépend du type d'entorse que vous avez.
D'accord. Et pour répondre à Julia, la kiné, elle va consister en quoi précisément? Est-ce que ça améliore la guérison? Elle demande, est-ce que c'est important de la faire, cette kinésithérapie?
À la phase aiguë, on ne prescrit pas de kinésithérapie.
Ouais,
c'est pour l'immobilisation. Au début, c'est l'immobilisation, les traitements anti-inflammatoires. Et puis ensuite, une fois qu'on va vous enlever l'attelle, si jamais vous avez été immobilisé pendant 3 semaines, l'autre jambe, celle qui était saine, eh bien, elle va compenser de façon différente. Et surtout, vous allez perdre du muscle, une amyotrophie au niveau des quadriceps. Et donc, le kinésithérapeute va vous faire du renforcement musculaire.
Pour remobiliser, du coup, c'est ça, d'accord.
Et puis, lutter contre l'enraidissement, puisque pendant toute cette période, vous n'avez pas marché. Et donc, il va falloir récupérer des amplitudes articulaires.
Donc, c'est important de le faire. En gros, en combien de temps on récupère?
Peut aller d'une semaine et d'ailleurs ça va dépendre de votre activité physique. Si on prend les sportifs de haut niveau, ils vont se remettre beaucoup plus rapidement sur pied que nous.
Que vous,
Oui, exactement, oui, que moi en premier effectivement. Donc ça peut aller de une semaine à 1 ou 2 mois et donc pas de sport d'ici là.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. On va passer à la deuxième question d'auditeur du jour. Cette fois c'est Elodie, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur. J'ai fait un bilan sanguin récemment. J'ai un peu trop de cholestérol et j'ai pas encore vu le médecin. Ça veut dire que c'est grave. Est-ce que je vais avoir forcément des médocs pour le faire baisser? Merci de votre réponse. Au revoir.
Jimmy, d'abord, est-ce qu'avoir un peu de cholestérol, alors on n'a pas le cas, on peut pas faire du cas par cas, de toute façon on fait pas de radioconsultation ici, mais est-ce que c'est toujours grave avoir un petit peu de cholestérol?
Alors le cholestérol, on a l'impression que c'est toujours quelque chose de mauvais, c'est un lipide qui est essentiel au fonctionnement de la membrane cellulaire et c'est synthétisé par le foie. Vous avez plusieurs types de cholestérol, le bon cholestérol qui va justement recapturer le mauvais cholestérol pour l'amener au foie et le détruire. Et puis vous avez le mauvais cholestérol qui va distribuer les plaques un peu partout dans les organes et former de l'athérosclérose. Les plaques de cholestérol
qui vont boucher les artères.
Et d'une façon générale, on a 20% de la population qui a du cholestérol et c'est responsable d'un infarctus sur deux en France. Donc c'est quelque chose à prendre en considération.
Oui, on prend ça très au sérieux. Est-ce qu'au vu de son bilan lipidique, donc est-ce qu'Élodie va avoir droit forcément, vous n'avez pas son bilan lipidique sous les yeux, mais est-ce qu'on a toujours droit à un médicament?
Non, pas forcément. Ça va dépendre de vos facteurs de risque cardiovasculaire. Si jamais vous avez 60 ans, de l'obésité, du surpoids,
là, je pense
du diabète,
qu'il y a des médicaments, hein.
Eh bien là, on va être exigeant avec votre niveau de cholestérol. Ouais. En revanche, si vous avez 35-40 ans, que vous êtes plutôt en bonne santé, on accepte un seuil plus élevé, donc on ne vous mettra pas d'emblée sur un traitement. On va vous proposer quelques petites choses avant justement de vous donner des médicaments.
Justement, c'est quoi les mesures, j'imagine, d'hygiène de vie finalement qui peuvent permettre de faire baisser ce cholestérol?
Perte de poids, de l'activité physique et attention à l'alimentation. S'il y a un régime qu'il faut adopter, c'est le régime méditerranéen à base de poissons, plutôt des poissons gras, riches en oméga 3.
Des fruits, des légumes. Des oléagineux.
Exactement. Et à ce moment-là, on peut suffire justement à contrôler ce cholestérol.
Sans médicaments. Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Élodie qu'on vient d'entendre, voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons accueillir nos deux invités pour le dossier du jour. Aujourd'hui, une émission en partenariat avec le magazine Tempo Santé, consacrée à notre peau. Toutes les solutions pour une peau saine et belle, à tout âge. On y vient très vite et c'est sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir nos deux invités sur le plateau aujourd'hui pour ce dossier du jour en partenariat avec le magazine Tempo Santé. On va commencer par vous, Sylvia Pinoza, bonjour.
Bonjour Mélanie.
Alors vous êtes rédactrice en chef de Tempo Santé. Vous avez donc coordonné le tout dernier numéro qui est en kiosque en ce moment. Un numéro avec un grand dossier sur notre peau, avec une promesse en une, retrouver une peau apaisée. C'est un souci important pour les Français.
Oui, parce qu'ils sont, nous sommes très très nombreux à souffrir de maladies de peau. On estime qu'une personne sur trois est concernée par une des maladies de peau, alors l'eczéma, le psoriasis, l'acné. Donc ça représente une partie très importante de la population et qui souffre souvent beaucoup. Surtout quand il y a des manifestations visibles de cette maladie.
Bien sûr. Alors notre deuxième invité, c'est vous, professeur Laurent Misery. Vous êtes chef du service de dermatologie au CHU de Brest, spécialiste en psychodermatologie et l'auteur du livre « Votre peau a des choses à vous dire » paru aux éditions Larousse. Docteur Misery, la peau elle a vraiment tant à nous dire.
Oui. Ben oui, c'est un peu le miroir de l'organisme, hein, comme le disait Paul Valéry, parce que la peau peut avoir beaucoup de maladies. Il y a un tiers des Français qui ont une maladie de peau. Et puis, sur la peau, on peut voir les signes de maladies cardiaques, hépatiques, rénales, etc. Et puis, souvent, on voit le signe d'une souffrance psychique aussi sur la peau.
Ça veut dire, professeur, qu'avoir une belle peau, c'est vraiment essentiel à la santé d'une façon générale?
Alors ça, c'est plutôt l'idée que les gens s'en font. Moi, je ne crois pas qu'il existe de belles peaux. Je crois qu'il existe des gens qu'on trouve plus ou moins beaux selon nos goûts. Mais en tous les cas, pour les Français et les Françaises, c'est très important d'avoir une peau qui leur convienne. Parce que vraiment, ce qui fait l'essentiel de notre apparence, c'est la peau et les yeux finalement.
Sylvia, est-ce qu'on sait si les problèmes de peau, ils sont finalement de façon, on va dire, générale, plus fréquents aujourd'hui qu'hier? Je ne sais pas.
Alors, pas forcément, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est plus difficile, c'est ce que disait un peu le professeur, c'est plus difficile de vivre avec une maladie de peau et que ça peut être discriminant. On le voit par exemple quand on fait un entretien d'embauche. Si on a une pathologie, par exemple un eczéma,
ça peut être un peu discriminant.
Oui, le recruteur va se dire, mais cette personne n'est pas un peu stressée, et donc il peut avoir, ne pas vraiment voir la personne, mais s'arrêter à sa maladie de peau. Donc, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de ces maladies se soignent, alors qu'il n'y avait pas forcément une réponse il y a 10 ou 20 ans à toutes ces maladies de peau.
Professeur, vous êtes spécialiste en psychodermatologie. Est-ce qu'un stress psychologique peut vraiment, est-ce que c'est prouvé, déclencher une maladie cutanée?
Alors, la déclencher, pas vraiment, sauf certains cas très particuliers où les gens créent eux-mêmes leur lésion. Mais en revanche, révéler une maladie de peau ou surtout l'aggraver, alors ça, oui, c'est quand même très fréquent. Et surtout pour les maladies inflammatoires comme le psoriasis, l'acné, l'eczéma, l'urticaire et un certain nombre d'autres.
Professeur Misery, donc la peau, si on lui prête attention aussi, il faut être très, très précis là-dessus, elle nous dit beaucoup de choses, vous l'avez expliqué, mais parfois, par exemple, on a, je sais pas, des démangeaisons, c'est agaçant, c'est sûr, mais est-ce qu'il faut toujours s'en préoccuper, toujours consulter pour ça, par exemple?
Ben, je crois que c'est assez spontané, parce que la démangeaison, c'est pas du tout anodin, c'est une souffrance tout autant que la douleur. Il y a même des gens qui disent que c'est pire. En tous les cas, c'est une souffrance qui est vraiment pénible. Et quand les gens ont des démangeaisons, ils ont vraiment besoin de voir un médecin.
Et justement, est-ce qu'une maladie de la peau non diagnostiquée peut révéler une autre pathologie de façon plus générale et pas simplement un truc dermatologique ?
Oui, ça arrive. Ou alors elles peuvent être associées. Par exemple, le psoriasis est associé à beaucoup de maladies qui peuvent être des maladies articulaires, intestinales.
Vous avez des exemples de manifestations sur la peau qui peuvent révéler des choses auxquelles nous, on ne pense pas en tout cas. Mais...
Alors, dans les petits signes sur la peau, par exemple, il peut y avoir le signe de Frank, c'est-à-dire un pli oblique en bas de l'oreille, mm-hmm. qui peut être un signe d'atteinte cardiovasculaire.
Ah oui, dis donc. Mm-hmm.
Voilà un exemple que j'aime bien citer.
Oui, ouais, il est étonnant.
Je vais regarder mes oreilles, alors je vais faire attention.
Ça, on ne voit clairement rien avec le casque, mais on regardera tout à l'heure si on a ce pli. Sylvia Pinoza, la peau, finalement, elle fait partie de nous. On l'oublie presque un peu, hein, parfois, même si vous disiez, effectivement, dans le monde du travail, on la regarde, mais bon, on n'est pas attentif à chaque morceau de peau, on va dire. Pourtant, c'est l'organe de tous les records. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous donner peut-être quelques chiffres ?
Oui, alors je vais vous donner quelques chiffres qui sont assez étonnants. Par exemple, c'est un organe qui pèse jusqu'à 4 kilos.
Ah oui,
pour
quand même,
un adulte. Donc je trouve que c'est assez étonnant. Sa surface est de 2 mètres carrés.
Waouh! Jimmy, vous imaginez, vous avez 2 mètres carrés de peau. C'est incroyable.
Et 4 kilos, c'est surtout ça. 4 kilos,
voilà. Ah oui, donc en fait, vous n'êtes pas si gros. En fait.
Non, en fait, c'est ma peau qui est grosse. C'est pas moi, c'est la peau.
Elle peut être très fine. Les paupières, c'est là où on a la peau la plus fine. Elle fait 0,5 millimètre. Là où elle va être la plus épaisse, ça va être nos paumes de la main, la plante des pieds, où elle va être jusqu'à 5
Jimmy,
millimètres.
Jimmy, c'est là, ouais, le talon est hyper rugueux.
La corne, elle rend épaisse cette c'est peau. Ça, mais ça. Du coup, elle est insensible.
Voilà, et puis on a aussi des millions de bactéries par centimètre carré, un million de...
Ah, donc elle est dégoûtante, cette peau.
Oui, surtout ces bactéries, elles vont manger nos...
C'est le microbiote cutané, en
exactement,
fait. Hein, c'est
le microbiote,
ça,
ouais, cutané qui va manger un peu nos...
Mais qui nous est utile, en fait. Hein,
ouais, et qui est une barrière contre les agressions.
Et cette peau, elle est constituée à 70% d'eau, d'où l'intérêt de bien l'hydrater. Mais est-ce que, professeur, bien nourrir sa peau, ça passe aussi par l'alimentation ? Est-ce qu'on peut vraiment avoir un impact sur l'hydratation de la peau en fonction de ce qu'on mange ?
Il veut savoir si manger des carottes, ça sert à quelque chose, en fait, Jimmy, parce qu'il n'aime pas ça, mais bon, si ça peut améliorer ça.
Je crois que l'important, comme le reste d'ailleurs, c'est d'avoir une alimentation diversifiée et que la peau ensuite s'adapte très bien à tout, sauf bien sûr dans les extrêmes avec des régimes, par exemple, trop sucrés ou trop gras ou trop carencés aussi. La peau supporte très mal les carences liées au régime aussi.
Et les carottes alors ?
Les carottes, très bien, très bien, ça vous donne bonne mine.
On ne devient pas tout rose hein, quand même, c'est ça, orange.
Orange.
Ah ouais, d'accord. Oui, les petits-enfants parfois, quand on commence la carotte, ils ont le bout du nez tout orange, donc ça doit bien marcher. Alors dans le magazine
Ça
Chapeau...
Ça sort d'où ce truc, Mélanie, franchement ? Si ! Les enfants, le bout,
mon
du
mon
nez
fils,
orange.
Il avait le bout du nez tout orange au tout début.
Mais il faut lui laver le nez, ça n'a strictement aucun rapport.
Vous confirmez pas, docteur, c'est juste le petit bébé Gomez qui avait ça, ils n'ont pas le bout du nez orange, les enfants, quand ils mangent trop de carottes.
Peut-être que le reste aussi.
Ouais. Bon, je viens de me ridiculiser en direct. Alors, dans le magazine Tempo Santé, notre partenaire aujourd'hui, j'ai appris que le sport, alors ça c'est étonnant je trouve, est bénéfique pour la peau. Comment ça fonctionne ?
Ah oui, complètement. Ben parce que le sport contribue énormément à notre bien-être, l'activité physique en général. Et donc, comme le cerveau, comme le cœur, la peau apprécie beaucoup.
Elle aime transpirer la peau, ça lui fait du bien.
Oui, tout à fait. Et puis le sport, ça fait sécréter des endorphines et d'autres hormones qui diminuent l'état de stress. Et ça, la peau apprécie beaucoup.
Merci à tous les deux. On va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on poursuit cette émission spéciale sur la peau et on va s'attaquer plus en détail à un problème cutané qui enquiquine la vie de nombreux Français, l'acné. Et vous verrez, c'est loin d'être seulement un problème d'ado. On va tout vous expliquer, à tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors sur notre plateau pour cette émission en partenariat avec Tempo Santé, d'abord Sylvia Pinoza, vous êtes rédactrice en chef de ce magazine. Et puis en plateau avec nous également, le professeur Laurent Miséry, vous êtes chef du service de dermatologie au CHU de Brest et également l'auteur de « Votre peau a des choses à vous dire » aux éditions Larousse. Alors à présent, on va passer au concret. Avec le cas de l'acné, pour commencer, alors Sylvia Pinoza, l'acné, c'est loin d'être un problème uniquement d'adolescents.
Oui, alors si 80% des ados souffrent de l'acné, il y a aussi 30% des femmes adultes qui en souffrent et 5% des hommes. Donc c'est pas du tout, c'est une vraie pathologie d'adultes aussi, notamment de femmes. Et à la périménopause, c'est des problèmes qui ont tendance à s'accentuer.
Et pardon, les professeurs, justement, est-ce qu'on sait pourquoi est-ce qu'on fait de l'acné ? Quelles sont les causes de l'acné ?
Alors, pour ce qui est de l'acné de l'adolescent, il y a un état d'instabilité hormonale à ce moment-là, et donc les pores de la peau se bougent plus facilement parce que la peau est plus grasse. Et ensuite vient s'ajouter une inflammation. Pour ce qui est des adultes, alors là, c'est sans doute plus compliqué. Probablement l'état de stress, probablement des facteurs hormonaux, surtout chez les femmes.
En périménopause, comme on l'expliquait Sylvia.
En périménopause, ou aussi avec certaines pilules. Et puis aussi probablement l'usage des cosmétiques, qui en fait bouchent plus ou moins les pores de la peau. Donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Peut-être aussi les perturbateurs endocriniens dans l'environnement.
Ah bon, ça pourrait avoir un impact direct sur
notre
peau.
Ah oui, j'en suis convaincu, oui.
Ça vous intéresse, Jimmy, hein ?
Oui, parce qu'on a l'impression qu'il y a un peu plus d'acné, notamment chez les jeunes femmes. Alors il y a l'histoire hormonale, mais ça veut dire que l'environnement pourrait aussi avoir un impact et c'est pas simplement que les hormones.
Oui, vraiment. Je crois que c'est de plus en plus fréquent, oui.
Alors justement, quand on parle d'acné, en réalité on pourrait parler plutôt des acnés. Il y a plusieurs types d'acné, ça touche pas toujours que le visage d'ailleurs.
Oui, il y a même une acné du nourrisson. Non, c'est pas que le visage, c'est en général le visage, les épaules, le dos, parfois le thorax aussi. Donc non, pas uniquement le visage.
Et justement, on doit consulter puisqu'on peut s'en débarrasser. Souvent, c'est signe d'une souffrance, une souffrance sociale, une souffrance psychologique. Donc, on a des traitements efficaces justement contre l'acné.
Oui, alors déjà, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que l'acné est nettement aggravée par le stress. Par exemple, au moment d'examen, c'est clair. Mais aussi, avoir une acné, c'est un stress. En particulier pour les adolescents, mais pour tout le monde, bien sûr. Et donc, il faut vraiment rompre ce cercle vicieux acné, stress, acné. Et on a pour ça des traitements efficaces. Alors, l'isotrétinoïne, c'est très efficace.
Ça, c'est un médicament par comprimé. Hein,
voilà.
C'est ça, ouais.
Mais ça, c'est pas pour tout le monde. C'est vraiment les gens qui ont une acné grave.
Ça marche très bien. Hein,
et ça marche très bien. Donc, faut pas hésiter à l'utiliser, mais pour les acnés graves et uniquement. Et puis, pour les autres, on a des traitements comprimés ou des traitements locaux qui sont très efficaces.
Des crèmes qu'il faut appliquer quoi, tous les jours
enfin, oui, pendant... une ou deux fois par jour. Et puis, chez certaines personnes, la souffrance psychologique est telle qu'il faut en plus un soutien psychologique.
Ah oui, pour de l'acné, on n'imagine pas. Oui. Hein, mais ça peut amener des adolescents, j'en sais rien, à la dépression, à des choses très très graves, par exemple, ou même des adultes. Hein,
oui. Ouais. Bah, par exemple, une étude norvégienne de grande qualité montre que... D'ailleurs, elle avait fait la couverture du magazine Time. Montre que, en fait, 25% des adolescents qui ont une acné sévère ont des idées suicidaires plein la tête.
Ouais, c'est vrai qu'on n'imagine pas cette.
C'est vrai que c'est sous-estimé, on a l'impression que c'est un passage obligatoire. Tu seras adolescent, tu auras des boutons, mais bon, c'est bien de le dire qu'il faut consulter. Et d'ailleurs, bientôt, on pourra peut-être soigner l'acné grâce à des auto-injections. Je ne savais pas que ça existait, sans aucun effet secondaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Oui, alors ce sera les biothérapies, comme ça existe déjà dans le psoriasis, l'eczéma, etc. Donc, une injection sous-cutanée de temps en temps. Mais alors là, ça concernera vraiment les formes très graves, très résistantes aux autres traitements. Et ce n'est pas encore commercialisé. Mmh.
Sylvia, on va passer à un autre problème de peau dont vous parlez dans Tempo Santé, évidemment. Le psoriasis. Alors, c'est très fréquent comme pathologie. Est-ce que ça touche une tranche d'âge en particulier ou pas
alors,
du tout ?
Pas une tranche d'âge en particulier. Les femmes et les hommes sont concernés de la même façon. Mais ça concerne quand même 4 millions de personnes.
Oh, ouais.
Et là aussi, on est sur des chiffres importants.
Mmh. Et professeur, à quoi ça ressemble justement le psoriasis sur la peau ? Parce qu'on a tous entendu parler un jour de ce mot, mais... On n'imagine pas trop ce que c'est, on comprend qu'il y aura des plaques, mais bon...
Ça c'est différent visuellement de l'eczéma, par exemple, qu'on connaît peut-être plus
En fait, les plaques de psoriasis, elles sont rouges, comme l'eczéma, mais la différence avec l'eczéma, c'est qu'elles sont bien limitées, et aussi qu'il y a des squames, c'est-à-dire qu'elles pèlent. Alors que l'eczéma, au contraire, il va plutôt suinter.
Ça gratte ?
Oui. Contrairement à ce qu'on a dit pendant longtemps, oui, ça gratte autant que l'eczéma.
D'accord. Et pourquoi ça va se développer ? Donc encore une fois, on en revient aux causes, mais pourquoi ça va se développer chez un individu et pas un autre ? On a une idée des causes principales. Vous disiez peut-être un peu le stress, mais je ne sais pas si ça déclencherait la maladie.
Plus qu'un peu, oui. Ouais. C'est probablement la maladie où le rôle du stress est le plus clair. Alors, il y a un terrain génétique.
Il y a des patients qui disent, j'ai eu un accident et tout d'un coup, mon psoriasis est sorti. Ou j'ai perdu, j'étais en deuil, j'ai eu ce psoriasis qui est sorti. C'est souvent
rappelé. En fait, c'est même 6 à 8 patients sur 10 qui nous racontent ça.
Ah ouais. Donc, c'est ça le facteur principal. Et puis après, génétique, vous disiez ?
Oui, voilà. Donc, il y a un terrain génétique. Tout le monde ne le fera pas. Et puis, alors, quand le psoriasis survient vers l'âge de 50-60 ans, souvent, ça peut être dû à des médicaments ou aussi à des facteurs de stress.
Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent améliorer ou aggraver le psoriasis ? Souvent, pendant l'été, l'acné peut s'améliorer transitoirement. Est-ce que c'est la même chose pour le psoriasis. Quel est l'impact des UV et du soleil justement sur ces maladies dermatologiques ?
Ben oui, les UV n'ont pas que des défauts. C'est sûr qu'ils sont cancérigènes, c'est sûr qu'ils font vieillir la peau, mais ils sont aussi anti-inflammatoires et c'est vrai qu'ils calment très bien le psoriasis, l'acné, l'eczéma, toutes les maladies inflammatoires cutanées, oui, c'est vrai.
Sans effet rebond, une fois qu'on rentre dans le...
Oui, parce que l'acné, on a souvent parlé de cet effet rebond en septembre avec le bourgeonnement après le soleil. Pour le psoriasis, ça peut être un peu pareil.
Oui, ça, on le sait, l'acné, le rebond, nous, on voit les patients en septembre,
c'est ça, après l'été.
Et ceux qui ont le psoriasis, on les voit en novembre. Oui, ça c'est clair.
Oui, Mélanie, vous êtes en plein bourgeonnement en ce moment.
Mais... N'importe quoi, mais je sais pas ce que vous racontez. Pourquoi vous vous en prenez à moi tout d'un
coup ?
Non,
c'est de la radio.
N'importe quoi. Alors, je crois que le psoriasis, malheureusement, professeur, on guérit pas du psoriasis, mais on a quand même aujourd'hui pas mal de solutions thérapeutiques à proposer pour mettre la maladie en sommeil. C'est quoi l'arsenal thérapeutique, grosso modo ?
Oui, comme Mélanie a dit, il y a des progrès gigantesques. Avec les biothérapies en particulier, donc avec une injection sous-cutanée de temps en temps, on ne guérit évidemment pas du psoriasis puisqu'il reste le traitement génétique, le contexte génétique, mais on peut faire vraiment disparaître complètement les lésions ou au moins les atténuer très nettement avec pratiquement pas d'effets secondaires. Alors simplement, ces traitements sont réservés là aussi aux formes les plus graves de psoriasis.
Mais pourquoi c'est toujours se réserver à... Pourquoi on ne donne pas à tout le monde ? C'est très cher, non ? Peut-être comme médicament.
Alors, pour ce qui est de l'acné, l'isotrétinoïne, ça peut être dangereux.
Ah oui.
Pour ce qui est des biothérapies, c'est pas tellement dangereux, mais c'est très cher.
C'est ça. Je me disais bien qu'il y avait un argument financier quand même.
Alors, je ne sais pas si vous avez constaté la même chose, mais j'ai le sentiment que les gens ne traitent pas forcément bien leur psoriasis. Ils vivent avec et parfois ont même honte des plaques. Ils ont du mal à exposer leur corps, notamment en été. Mais pour autant, ils ne traitent pas forcément très bien ces lésions. Est-ce que vous avez constaté la même chose ?
Oui, c'est trop dommage. Mais néanmoins, les gens savent de plus en plus qu'il y a des traitements qui peuvent être efficaces. Et donc, ils se traitent quand même de mieux en mieux. Ou ils sont de mieux en mieux traités par leur médecin.
Avec tous les traitements dont vous avez parlé, on a une solution pour tout le monde ou pas, vous pensez ?
Alors ça dépend de ce qu'on appelle une solution, mais en tous les cas, on peut améliorer les choses pour tout le monde. Oui.
Merci. On va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes. Europe 1. On revient très vite avec cette émission consacrée à notre peau cet après-midi et à certaines pathologies assez fréquentes qui peuvent la toucher. Juste après, on va s'intéresser à l'une d'entre elles que vous connaissez forcément. Vous avez même peut-être un proche ou vous-même qui en est atteint. On va tout vous dire sur l'eczéma dans quelques toutes petites minutes. A tout de suite.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous, sur notre plateau pour cette émission en partenariat avec Tempo Santé. Vous d'abord, Sylvia Pinoza, vous êtes rédactrice en chef de ce magazine et avec nous également le professeur Laurent Misery. Vous êtes chef du service de dermatologie au CHU de Brest et également l'auteur de « Votre peau a des choses à vous dire » aux éditions Larousse. Alors, nous allons faire un focus à présent sur une maladie de peau qui peut empoisonner la vie de beaucoup d'enfants ou même d'adultes, l'eczéma. Sylvia Pinoza, là, pour cette pathologie, la proportion de Français concernés alors explose tous les records.
Oui, totalement, puisqu'on estime qu'ils sont 10 millions à être concernés.
Oui, 4 millions tout à l'heure, là c'est 10, c'est
10
énorme.
Millions, ouais. Alors donc là aussi, ça va du nourrisson, puisque il apparaît souvent chez les tout-petits, c'est la dermatite atopique. Dès 3 mois, elle peut apparaître. Et puis ensuite, chez l'adulte, on sera plus sur un eczéma de contact qui aura une origine plus environnementale. Donc deux pathologies un peu différentes et qui s'adresse à des différentes parties, à des moments de sa vie.
Et justement, oui, à quoi ça ressemble l'eczéma ? On a parlé du psoriasis, de l'acné. Vous avez dit que le psoriasis ressemblait un peu à l'eczéma, c'est des plaques rouges. Est-ce que ça gratte forcément ?
Oui, ça gratte forcément. En fait, il y a deux types d'eczéma. Il y a l'eczéma de contact, qui est une allergie précise à une substance précise. Et donc, on va trouver l'eczéma là où la peau a été en contact. Et puis, il y a l'eczéma atopique qui n'a pas de topographie particulière, qui peut être un peu diffus sur tout le corps, même s'il y a des zones préférentielles, et qui va survenir chez 20% des nourrissons, par exemple.
20% des nourrissons, quand même, oui. Ça ne veut pas dire que ce seront des ces nourrissons, je ne sais pas, à 3 mois qui ont de l'eczéma, ils en auront jusqu'à la fin de leur vie ou...
Non, heureusement, ça passe en général avec le temps, mais il y a beaucoup d'adultes qui ont encore une dermatite atopique.
Le temps, ça veut dire quoi ? L'adolescence, ça s'arrête ?
Souvent, oui, vers l'âge de 6 à 16 ans, oui.
D'accord.
Donc pas toujours. Il y a vraiment beaucoup d'adultes qui ont une dermatite atopique.
Vous avez dit que ça évolue avec le temps, mais justement, est-ce qu'il peut y avoir des périodes dans l'année, avec le froid par exemple, où on va faire plus de poussées d'eczéma et des moments où ça va un peu se calmer, notamment, encore une fois, lorsqu'il fait un peu plus beau ?
Alors la saison de la dermatite atopique, c'est surtout le printemps.
Ah, il y a une saison, comme voilà. Les allergies, le rhume des foins, il y a aussi la dermatite
c'est
atopique.
C'est ça, à cause des pollens.
Ah oui, d'accord, c'est aussi marrant ça, je ne savais pas.
Et on voit parfois chez les enfants, vous savez, ils ont des petites... j'ai l'impression de voir des enfants avec des petites plaques au niveau du visage. Est-ce que le froid peut au contraire agresser la peau, en particulier d'un enfant qui a de l'eczéma, et du coup se dire, on va faire un peu plus attention et la renforcer et la surveiller un peu plus?
Oui, parce qu'en fait, la peau sèche favorise l'eczéma, donc c'est pour ça, oui. Tout à fait.
C'est quoi la cause principale de l'eczéma? Est-ce que c'est, donc, vous disiez, des allergies, rhume des foins, c'est à la même période? Est-ce que c'est un problème du système immunitaire, de la même façon que les allergies?
Oui, là aussi, il y a un terrain génétique qui fait que l'immunité va déclencher une réaction contre des choses qui...
De l'environnement, quoi. Ouais.
Voilà, des choses de l'environnement qui ne sont pas du tout pathogènes en soi, comme les pollens.
Moi, j'accepte les poussières, mais un enfant avec de l'eczéma, ça va l'irriter. Quoi,
exactement. C'est ça, ouais. Exactement. Et puis, bien sûr, tout ça, comme le reste, c'est aggravé par le stress, mais le stress n'est pas la cause.
Sylvia parlait tout à l'heure de dermatite atopique. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que vous expliquez aux gens la différence? Ou est-ce que c'est pareil, l'eczéma et la dermatite atopique? Parfois, on confond un peu les deux. On ne sait pas trop quel est l'un.
C'est pas le nouveau nom, la dermatite atopique, de l'eczéma, je ne sais pas.
En fait, on me dit dermatite atopique, oui, c'est le nouveau nom, pour bien différencier de l'eczéma de contact.
D'accord, c'est ça. Et donc, l'eczéma de contact, c'est très différent. Vous disiez, c'est pas. Oui. Là, c'est quoi? Je vais être allergique juste à une matière.
Oui, voilà, par exemple.
Tu vas à des boucles d'oreilles en toc.
Exactement.
C'est ça? Ah oui, d'accord. Exactement. C'est exactement ça. Jimmy.
Alors, Sylvia Pinoza, dans Tempo Santé, on apprend aussi que l'eczéma par procuration, ça existe. Je dois vous avouer que je n'avais jamais entendu parler de ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Alors, c'est un eczéma qui va se développer quand son conjoint, son partenaire ou un membre de sa famille va utiliser un parfum ou des composants chimiques dont on va devenir allergique. Donc, ça se passe, on appelle ça aussi la dermatite connubiale. Mais ça sera pas forcément, c'est pas nous. Nous ne portons pas cet allergène, c'est l'autre qui...
Je suis allergique à vous, voilà.
C'est ça, non, c'est pas allergie à la personne, c'est à ce qu'elle porte ou à ce qu'elle va mettre. Attention, ça n'a rien à voir, ne divorcez pas après cette émission.
Pas du tout. Professeur Misery, vous qui êtes spécialiste en psychodermatologie, est-ce que le stress peut aggraver cette maladie ou pas? Vous l'avez déjà un petit peu amorcé. Est-ce qu'il faut, par exemple, conseiller aux personnes qui en souffrent, finalement, de se relaxer un maximum pour améliorer les choses ou ça n'a pas d'intérêt?
Oui, tout à fait, le stress aggrave les choses. Simplement, le stress, il ne faut pas lutter contre, il faut l'accepter. C'est normal qu'on soit tous stressés.
Surtout en ce moment.
Voilà, surtout en ce moment.
Il y a des aggravations d'eczéma depuis le coronavirus, tout ça.
Oui, en particulier pendant le vrai confinement, le premier, c'était assez terrible.
Des patients qui ont été aggravés, vous en avez vu beaucoup.
Oui.
Donc on l'accepte, mais on l'accepte comment, le stress?
En fait, ce qu'il ne faut pas, c'est se dire « il ne faut pas que je sois stressé ». Parce que plus on se dit « il ne faut pas que je sois stressé », plus en pratique, ça veut dire qu'on dénie le stress, et plus il aura une expression somatique.
Donc le yoga, la méditation, pour les gens qui souffrent de maladies cutanées comme ça, ça peut avoir un bénéfice?
Oui, tout à fait.
Ouais, vous le conseillez à vos patients?
Oui.
Et donc pour traiter, ou plutôt peut-être prévenir un eczéma, le maître mot, c'est l'hydratation de la peau, c'est ça?
Alors, c'est important d'hydrater la peau, mais pas autant qu'on le pensait. Il y a un article qui est sorti dans Lancet, on peut dire l'année dernière, en 2020, qui montre que, en fait, non, le fait de mettre des crèmes hydratantes, ça ne prévient pas la survenue de plaques d'eczéma. Ceci dit, c'est quand même important d'hydrater la peau, parce que la peau, elle est vraiment sèche quand on a un eczéma.
Mais c'est une peau qui est physiologiquement, la peau de la personne qui souffre d'eczéma, est-ce que physiologiquement, elle est différente de la vôtre ou la mienne? Enfin, est-ce qu'elle a une particularité, une anomalie physiologique?
Oui, il y en a plusieurs. Donc, elle a cette hyperactivité immunitaire, mais aussi, elle est plus sèche. Et aussi, elle a une hyperactivité du système nerveux.
Mais justement, qu'est-ce qu'on met comme type de crème? Une crème qu'on achète en supermarché, en pharmacie, que le médecin va vous prescrire? C'est vrai qu'on a toute une gamme.
Dans les crèmes hydratantes, il y en a tellement qu'on ne sait plus quoi choisir aujourd'hui. Ouais.
Il vaut mieux écouter les conseils du médecin ou du pharmacien, mais ça ne veut pas dire que... Les crèmes qu'on trouve en supermarché sont forcément mauvaises. C'est très variable.
On peut essayer et puis voir si effectivement il y a des réactions ou pas. Parce qu'aujourd'hui, on sait que même dans les cosmétiques, parfois il y a trop de substances chimiques, des perturbateurs endocriniens. Donc parfois, il faut en essayer plusieurs avant de trouver la bonne.
Exactement. Le mieux, c'est d'essayer soi-même et de se faire une idée.
On peut utiliser aussi les corticoïdes ou plutôt les dermocorticoïdes. Ça marche plutôt bien dans l'eczéma?
Oui, alors les dermocorticoïdes, c'est-à-dire les corticoïdes appliqués sur la peau, c'est vraiment le traitement de base.
De référence, hein, c'est
ça? De référence, oui. C'est vraiment ce qui concerne tous les patients. Il faut vraiment éviter les corticoïdes en comprimé ou en injectable, parce qu'après, on peut avoir des effets rebonds très, 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 très importants. Et puis maintenant, on a d'autres possibilités, on a d'autres
traitements. C'est quoi le reste dans l'arsenal thérapeutique? Il y a quoi d'autre?
Alors, on en a beaucoup moins que dans le psoriasis, mais on a quand même le tacrolimus en topique aussi. Et
puis, en topique, ça veut dire en crème, c'est
voilà,
ça?
Voilà, ouais. En crème, tout à fait. Et puis, on a aussi des traitements en comprimé. Et maintenant, on voit aussi apparaître des biothérapies injectables.
Dupilumab, je crois. Hein,
voilà, ça c'est la première. Qui a vraiment...
Ça, c'est en routine, je veux dire, voilà. On peut le prescrire. Hein, c'est pas
voilà,
de...
ça, on l'a depuis 2 ans, je crois.
Oui, c'est récent, mais...
Et ça a vraiment transformé la maladie. Mais il y aura certainement des traitements suivants qui seront encore plus efficaces et encore mieux tolérés.
La recherche continue, c'est très
oui.
actif encore,
oui,
parce que,
bah,
effectivement, Sylvia disait combien, 10 millions, 11 millions de patients
oui. ouais.
Rien qu'en
oui.
France, donc c'est partout, ah oui. partout pareil dans le monde, j'imagine.
C'est ça. Un peu plus dans... Plus on monte vers le nord, plus il y a de cas. Mais même vers l'équateur, des gens peuvent avoir une dermatite atopique.
Donc de la recherche encore très active dans l'eczéma, et c'est heureux.
Sylvia, dans Tempo Santé, vous faites aussi un petit point pratique sur les cures thermales dermatologiques. Il y en a quelques-unes en France. Est-ce que tout le monde peut y avoir droit et est-ce que c'est remboursé?
Alors ça peut être pris en charge si l'établissement est conventionné. Donc il faut que ça soit prescrit par son médecin. Et dans ce cas-là, l'assurance maladie, oui, va prendre en charge les 18 jours que compte cette cure.
C'est des choses que vous conseillez à vos patients, les cures thermales dermatologiques ou pas?
Oui, parfois, hein, ça peut être très utile. Bon, faites
l'occasion
motiver.
De prendre du recul aussi, un peu peut-être aussi.
C'est
hein.
l'occasion de prendre du recul, tout à fait. Mais il faut être motivé parce que c'est 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines, on ne reste pas sans rien faire. On a vraiment des soins.
Très bien. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ce dossier en partenariat avec le magazine Tempo Santé. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, il est en kiosque évidemment. Une mine d'informations et d'avis d'experts. Merci encore à tous les deux.
Europe 1.
Dans un instant, la chronique beauté de Benjamin Lévesque. Comme tous les vendredis, il a décidé de rester dans le thème du jour, la peau. Mais lui, il va répondre à une préoccupation totalement esthétique et courante quand même en hiver. Comment garder bonne mine, hein. Jimmy veut tout savoir. Comment garder un teint bronzé même en hiver. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. À présent, il est temps de soigner votre apparence avec la routine beauté tous les vendredis de Benjamin Lévesque. Benjamin, on est en plein quart de l'hiver, on a tous perdu, enfin Jimmy moins peut-être,
un petit peu moins. Oui.
Il doit se mettre au balcon je pense. On a tous perdu notre bronzage, notre teint est pâle, voire même complètement blafard. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se redonner un peu de couleur?
Et oui, parce qu'en fait, la peau l'hiver s'épaissit pour se protéger du foie, ce qui va aussi ralentir l'élimination des toxines. Donc avant de vouloir lui redonner de la couleur, eh bien, on va la détoxifier, la rendre en bonne santé. Pour ça, il faut impérativement utiliser des huiles végétales pour gorger sa peau en acides gras essentiels, comme le préconise Anne-Marie Gabellica. Elle est fondatrice des cosmétiques Olution.
Concrètement, l'huile de carotte, alors vous prenez votre soin de jour habituel et vous allez rajouter l'huile de carotte à raison de 5 petites gouttes. Voilà, et puis vous allez le mélanger à votre crème avant de l'appliquer sur le visage. Ensuite, en l'appliquant sur le visage, on masse hein, toujours voilà, du bas vers le haut, d'accord, et de l'intérieur vers l'extérieur du visage, vraiment pour favoriser l'élimination lymphatique.
Alors Benjamin, est-ce qu'il y a des choses à mettre dans notre assiette pour
Il y a que ça qui vous intéresse, la bouffe,
il adore ça. Est-ce qu'une brochette de kebab
non,
me donnera le meilleur
kebab.
Temps? C'est la seule question que je veux savoir.
Pas de kebab, Jimmy, alors ce n'est plus un secret, mais il faut manger des aliments riches en bêta-carotène, hein, visuellement. C'est tout ce qui comporte des pigments orange, hein, comme la carotte, bien sûr.
Voilà, on y revient.
Mais aussi la patate douce, l'abricot, la mangue ou le melon.
La mangue, il y en a toute l'année. Non, mais l'abricot et le melon, en ce moment...
C'est pas de saison. Il y a aussi des aliments chargés en lycopène. Là, c'est tout ce qui est rouge, comme la tomate ou la pastèque, comme l'explique Isabelle Barra. Elle est chrononutritionniste à Paris.
Ce sont des pigments qui vont colorer un petit peu, se répartir dans tout l'organisme. Ils sont liposolubles, donc ils adorent les membranes cellulaires qui sont liposolubles également. Mais ils ont une affinité pour les cellules qui sont à la surface de la peau. Ils ont 10 fois plus de concentration, ils vont se mettre 10 fois plus à la surface de la peau dans des cellules qu'on appelle les chromatophores et qui vous assurent une pigmentation. Ces caroténoïdes vont se fixer surtout en surface de la peau. Et ça va être un petit peu des réservoirs de couleurs. Et donc, ils vont assurer la couleur de la peau par ce mécanisme. Donc, si on résume, jus de carotte, sauce tomate, mettez-en à tous vos plats. Et citrouille, pastèque, pissenlit, laitue, même si c'est vert, contiennent également, comme les épinards, beaucoup de bêta-carotène.
Et certaines épices également sont bourrées de pigments qui vont redonner de la couleur à votre peau, comme le roucou, le curcuma, le safran, le paprika. Donc, ne pas hésiter à en mettre dans vos soupes, sur vos salades ou dans toutes les sauces. Et enfin, il y a celles et ceux qui vont préférer eh bien tricher grâce au fond de teint, à la crème teintée. Encore faut-il savoir l'appliquer correctement. Et pour vous aider, on écoute les conseils d'Enzo Fournier. Il est le maquilleur officiel de Lancôme France.
Même pour les novices, on peut très bien s'en sortir. Si on n'est pas très à l'aise avec un pinceau, par exemple, on peut utiliser les doigts. On va prendre très peu de matière sur le bout des doigts, qu'on vient chauffer un peu. En général, ça va permettre, comme quand on utilise un soin, le fait de le chauffer un petit peu sur un fond de teint qui peut être un petit peu épais, ça va le fluidifier un petit peu. Il sera beaucoup plus simple ensuite à pouvoir étirer sur le visage, sur la peau. Et ensuite, de l'intérieur du visage vers l'extérieur. Donc on commence par les arêtes du nez et on étire au niveau des joues. Pareil au centre du front et on étire vers l'extérieur. Et pareil au niveau du menton. Si on utilise un pinceau, ça va être la même chose. L'avantage du pinceau, c'est qu'en général, ça va permettre une meilleure tenue. Ça va étirer la matière au maximum. Du coup, c'est aussi un petit peu plus économique.
Enfin, une petite astuce maison. Vous pouvez mélanger votre crème hydratante avec de la poudre de cacao et un tout petit peu d'eau. Et appliquer ensuite sur le visage.
Bah, Jimmy, le petit chocolat du matin.
Le cacao, là. C'est dans l'air. Arrêtez, Benjamin, là, franchement.
Le banania dans la crème.
Non, mais jamais de la vie, c'est que dans l'air.
C'est si il y a des problèmes d'argent, voilà. C'est les fins de mois, c'est un peu difficile.
Le banania dans la crème de jour. Merci beaucoup, Benjamin Lévesque, pour ce coup de peps et ses conseils diététiques aussi. Hein, merci.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de Catherine Blanc, alors n'hésitez pas et restez sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous avec plaisir depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed qui sourit. Pourquoi ? Parce que j'ai dit avec plaisir, on est là avec plaisir,
j'aurais
évidemment.
Sourire, excusez-moi.
Et vous êtes là particulièrement avec plaisir quand Catherine Blanc fait son entrée dans ce studio.
Mais ça semble vous étonner que je souris, ça a
non,
l'air derrière
oui,
mon masque.
Oui, c'est rare en même temps,
oui, c'est vrai.
J'ai vu vos yeux qui remontaient. Alors Catherine, vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. On avait parlé avant les vacances du point G chez les femmes. Du coup, aujourd'hui, Jimmy tenait absolument à ce qu'on aborde le point G chez les hommes. Est-ce qu'il existe d'abord ce point G chez les hommes ? Enfin, en tout cas, une zone particulièrement.
Alors déjà, que je suis assez dubitative sur le point G chez les femmes. Donc bon. Je reste toujours tout aussi dubitative. Quand je dis ça, dubitative, c'est pas qu'il n'y a pas. Bien sûr qu'il y a des zones qui sont particulièrement sensibles, mais encore une fois, on voit que les zones chez deux êtres différents...
On a parlé
sont
des
pas...
zones érogènes un peu plus tôt
voilà,
dans la semaine. Hein,
ne sont pas sensibles de façon identique, parce que pour X raisons, nous investissons plus ou moins des parties de notre corps où nous ne voulons pas découvrir certaines parties de notre corps, parce que ça nous renvoie à des positions ou à des situations qui sont dérangeantes. Donc à ce titre, le point d'IG chez les hommes, considéré comme étant au niveau de la prostate, qui
ah,
implique...
Ah, vous voyez, c'est là. Voilà, elle vous donne la géographie, là.
Voilà, qui impliquerait du coup un toucher rectal ou une pénétration rectale d'un doigt ou d'un pénis. Évidemment que vous comprenez que tous les hommes n'ont pas le souhait de le sentir sollicité, non pas parce que ça ne serait pas source de plaisir, mais parce que ça les renvoie parfois à des postures anxiogènes dans le lien à l'autre et dans la représentation qu'ils ont d'eux-mêmes.
Est-ce que c'est clair, Jimmy ?
Non, justement, j'ai une question complémentaire pour vous, Catherine.
On adore les questions complémentaires de
mais
Jimmy.
Ça veut dire que quoi ? Se faire titiller la prostate n'a pas d'intérêt ? En fait, on n'a pas forcément de plaisir, parce que parfois, certains parlent de massage prostatique ou on peut avoir même une éjaculation. Mm-hmm. Donc, est-ce que ça existe vraiment ? Je cherche à savoir absolument, mais c'est...
Je crois que vous êtes
mieux... cherche à savoir quand même.
Je pense que vous êtes mieux placé que moi pour y répondre, mais le fait est que, c'est évidemment, que être titillé sur une zone qui est érogène, il y a un merveilleux tissu de système nerveux dans cette zone, donc évidemment qu'il y a un ressenti qui peut être extrêmement érotisé, et donc à ce titre, tout le monde a intérêt, enfin tous les hommes ont intérêt éventuellement à y aller, y voir quelque chose là-dedans, et s'y laisser surprendre.
Alors je ne sais pas si on a intérêt à y aller,
s'y laisser
forcément.
Surprendre, voilà. Mais
ils ont aussi le droit de ne pas le souhaiter. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne pourraient pas imaginer une seule seconde être sollicités de ce point de vue-là, y compris d'ailleurs quand c'est pour des raisons médicales.
Ah oui, mais est-ce que du coup la prostate, elle est pas très
accessible ?
Vous savez,
vous en consultation, ça, c'est difficile d'aller dans cette zone chez les hommes, même quand il y a.
Même
vous
quand
nous le disiez,
faire,
hein, ils veulent rien vous
ils
montrer,
mal,
les hémorroïdes, c'est difficile.
Parce
gênés.
Que pour certains, ils ont peur justement que cela crée un plaisir et un plaisir dans un lien médical et dans un lien avec s'ils sont hétérosexuels avec un homme. Ce qui est d'ailleurs assez amusant parce que les femmes vont chez des gynécologues et elles ne se posent pas la question qu'être pénétrées par un spéculum risquerait d'amener une jouissance de pénétration, alors que les hommes qui n'ont sent pas, justement, d'abord ce
Vous le confirmez, Jimmy, en consultation, c'est compliqué, hein ?
C'est très compliqué, les gens ont du mal, mais pour venir un peu plus au côté sexuel, est-ce que, du coup, se faire titiller la prostate, c'est forcément quelque chose réservé aux personnes qui ont des hommes, qui ont des rapports avec les hommes, ou même quelqu'un d'hétérosexuel peut aussi apprécier ça ? Est-ce que c'est... ça paraît bizarre, hein, étrange, mais est-ce que c'est réservé à tous les hommes de façon générale ? Encore faut-il qu'ils acceptent...
De se laisser surprendre.
Voilà, de se laisser surprendre. Bah, c'est là toute la difficulté, parce que pour une femme, puisque là nous prenons justement le cas de l'hétérosexualité, pour une femme, savoir si oui ou non ce peut être source de jouissance pour l'homme, c'est un risque qu'elle doit encourir. Et l'homme, de pouvoir l'exprimer, certains vont le demander, mais d'autres pas, en espérant que ce sera fait. Et puis une femme peut se sentir très mal à l'aise. Parce que, autant l'homme peut se sentir mal à l'aise d'être dans la position d'être pénétré, d'un doigt en l'occurrence ou d'un Miché, et une femme est très mal à l'aise d'être pénétrante parce que ça la renvoie à une posture qui ne correspond pas à son genre et l'idée qu'elle se fait de son genre. Donc c'est
la mode, hein. On parle souvent des massages prostatiques et tout ça, on en parle de plus en plus en tout cas, hein. Donc peut-être que ça va s'ouvrir, enfin je veux dire, les plus d'hommes vont chercher à être surpris. Non,
je sais pas. Faut faire attention au manque d'emploi ici, parce qu'après, ils font légende. Non, c'était surpris. Donc, ça, je crois que la notion de mode n'est pas bienvenue dans la sexualité. Il y a simplement que les mots se libèrent et que donc les gens peuvent se poser la question et oser tendre vers une curiosité. Et souvent, ils osent et puis ils reviennent sur leur pratique passée. Et d'autres, bien, ils l'intègrent dans leur pratique. Tout ça dépend évidemment du jeu du couple, du jeu de la relation, de l'image que chacun a de soi, de cette intimité partagée qui fait sourire. Parfois d'ailleurs, ils le vivent, mais ils ne peuvent pas l'exprimer. C'est-à-dire que c'est très charmant d'ailleurs. Il y a des hommes qui vont le vivre dans leur sexualité, mais qu'une femme le prononce, moi je me suis retrouvée dans des situations où un couple s'exprimait là-dessus, et c'était elle qui exprimait cela, et lui devenir tout rouge, alors que dans le cadre de leur intimité, ça faisait partie tout à fait tranquillement intégral. Des surprises, des surprises agréables. Donc voilà, je crois qu'encore une fois, notre intimité, c'est une intimité émotionnelle et c'est plus qu'une intimité de corps. Et donc, nos émotions sont pour les uns et les autres vacillantes et faciles à accueillir parfois et parfois pas. Donc c'est à inventer au sein du couple à son gré.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils. Voilà Jimmy, vous savez tout. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Dans un instant, c'est Mathieu Noël et Stéphane Bern avec Historiquement Vôtre. Bonjour Mathieu, bonjour Stéphane.
Bonjour Mélanie. Aujourd'hui Mélanie.
Ah oui. Ah oui.
Direction un endroit que Stéphane connaît bien, les cuisines de l'Élysée. Ah. Il est souvent invité là-bas.
Vous êtes dans les salons pendant que je suis à la
cuisine. Il connaît bien le chef Guillaume Gomez.
Ah,
le chef.
C'est mon cousin peut-être, Gomez. Non, oui.
On lui demandera.
C'est jamais invité, c'est pas sympa.
On lui demandera. Le chef cuisinier de l'Élysée. Ouais. On va parler des chefs ceux qui ont été les chefs cuisiniers des chefs d'État avec Antonin Carême, qui a accompagné Talleyrand au congrès de Vienne en 1815, Pierre Cuba qui a cuisiné pour les tsars de Russie et Guillaume Gomez justement qui est notre invité exceptionnel.
J'en portais assez amical parce qu'au début je pensais partir sur quelque chose d'assez corrosif, assez violent, puis j'ai vu que ça faisait 17 ans qu'il faisait de la boxe avec les gardes du corps du président, donc je me suis dit finalement
si vous voulez être invité,
on ira mollo. Effectivement.
Bon, une émission savoureuse et puis quand c'est la famille, moi je dis je reste évidemment. Allez, vous aussi n'hésitez
pas. Quelle pique-assiette cette Gomez
sur Europe 1.